Bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes en pleine époque des mariages, c'est toujours une joie, ces fêtes, ces couples qui se forment. Teinté d'une légère inquiétude, ce mariage va-t-il vraiment durer toute la vie? Pour le savoir, il y a un test simple, c'est le test de la voiture. Si vous pouvez supporter que votre fiancé mette le chauffage à fond en hiver sous prétexte qu'il ne voyage qu'en chemise, si vous pouvez supporter que votre fiancé mette aussi la clim à fond en été pour voir comment ça fait une angine de poitrine, si vous pouvez supporter que la passagère hurle « Attention !» à chaque fois qu'on croise une voiture, si vous pouvez supporter que cette même passagère fasse mine de freiner en appuyant de toutes ses forces sur une pédale de frein imaginaire, alors qu'on n'est pas dans une voiture d'auto-école, si vous pouvez supporter que le conducteur refuse systématiquement de demander son chemin quand à l'évidence on est complètement perdu au milieu de nulle part, si vous pouvez supporter que tout en conduisant, votre fiancé mange un sandwich à deux mains, consulte ses mails, farfouille sur le siège arrière, insulte les autres conducteurs, et pardon, c'est un brin caricatural, mais hélas bien réel, mette le match de foot à fond, vocifère et envoie des textos à chaque but. Si votre fiancé, quand vous lui dites de tourner à gauche, exaspéré, vous répond « Je sais !» et quand vous ne lui dites pas, furieux, vous lance « Pourquoi tu me l'as pas dit ?» Si après avoir partagé l'habitacle d'une auto, vous vous aimez toujours, alors vous vous aimerez pour toujours.
Bonjour, maman les petits bateaux, je suis Bertrand, je suis un peu vieux pour l'émission parce que j'ai 23 ans, mais il est une question qui me taraude depuis très longtemps. J'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que les mariés passaient l'alliance à la main gauche, sachant que la main gauche, traditionnellement, en tout cas c'est ce que j'avais cru apprendre en histoire, c'était la main du diable et qu'on jurait avec la main droite. Et la main droite, c'était la main de Dieu. Merci beaucoup, au revoir.
Jean-Claude Bologne, c'est toute une salade de mains qui nous présente là, la gauche, la droite, le diable, l'alliance.
Oui, effectivement, il y a des problèmes entre la main gauche et la main droite, mais c'est une bonne question. Parce que au départ, l'anneau, soit de fiançailles, soit de mariage, se portait aussi bien à une main qu'à l'autre. Ceci dit, il y a d'abord une question pratique. La main droite, dans une civilisation où tout le monde, où beaucoup de gens sont droitiers, c'est la main avec laquelle on travaille. Et avant l'anneau, le petit jonc que nous connaissons maintenant, on avait de grosses bagues de mariage ou de fiançailles. Et c'était beaucoup plus pratique de le porter à la main gauche. Et donc, petit à petit, l'habitude s'est prise de le mettre à la main gauche. Et à ce moment-là, il a fallu inventer une raison symbolique, parce que la raison pratique n'est pas toujours satisfaisante pour l'esprit, surtout avec l'image de la main gauche. Et on sait que les évêques portent leur anneau à la main droite, et les gens mariés, donc, l'ont porté à la main gauche avec une autre signification. À l'évêque, on lui demande la chasteté, c'est beaucoup plus important, il a la main droite. Aux époux, on demande la continence, et là, il la porte à la main gauche. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi au quatrième doigt, à l'annulaire, ce qui est devenu l'annulaire. Et là, on croyait, là depuis l'époque des Romains, on a des témoignages depuis le deuxième siècle, qu'un petit nerf ou une petite veine, selon les auteurs, reliait directement l'annulaire de la main gauche au cœur, qu'on appelait cette veine une veine cordiale. Et donc, en comprimant ce petit nerf ou cette petite veine, on s'assurait la fidélité de son épouse. Et selon les cérémonies, d'ailleurs, on pouvait passer l'anneau successivement aux trois premiers doigts, au nom de la Trinité, donc Dieu est toujours là, ouais. Et puis le passer au quatrième, à l'annulaire, symboliquement. Chez les Celtes, chez les Gaulois, on est plutôt tendance à mettre l'anneau au majeur. Et comme dans la civilisation romaine, le médium avait une très mauvaise réputation, on l'appelait le doigt impudique, on n'a pas osé mettre l'anneau du mariage à ce doigt-là. Il est resté d'ailleurs le doigt impudique aujourd'hui. Donc il y a eu des contradictions entre l'esprit celte et l'esprit romain, et c'est finalement cette thèse de la veine cordiale, qui est surtout poétique, je pense, ouais, qui l'a emporté. En fait, c'est au XVIe siècle que l'habitude s'est vraiment ancrée partout de mettre l'anneau uniquement à la main gauche et uniquement à l'annulaire.
Alors Bertrand nous parle d'histoire de main du diable.
Alors la main gauche, effectivement, c'est ce qu'on l'appelait la sinistre, sinistra en latin, qui nous a laissé le mot sinistre. Et effectivement, il y a toute une série de superstitions qui concernent la main gauche, qui en fait la main désavantagée du diable. C'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, lorsqu'on avait ce qu'on appelait la main de gloire en sorcellerie, c'était une main gauche de pendu, desséché. Donc il y avait une série de superstitions qui s'attachaient à la main gauche, et notamment au gaucher. Alors, c'est la main qui n'est pas la main avec laquelle on jure. C'est la main, ce n'est pas la main avec laquelle on se marie de la main droite. Et d'ailleurs, le mariage de la main gauche est un mariage qui se faisait jadis dans les pays germaniques, en Allemagne, entre les princes et les femmes qu'ils ne voulaient pas reconnaître comme reines. Ce qu'on appelle un mariage morganatique.
Mariage de la main gauche, c'est pas des concubins, non?
Alors aujourd'hui, l'expression désigne les concubins, n'a plus aucune réalité juridique. Oui. Mais au Moyen-Âge en Allemagne, c'était une réalité juridique. C'est-à-dire, au lieu de donner la main droite à la femme, ce qui lui donnait le statut d'épouse officielle, on lui donne la main gauche. Elle a quand même le statut d'épouse aux yeux de l'Église, mais aux yeux, je dirais, de la législation civile, c'est une épouse morganatique, une épouse qui n'a pas droit au titre de son mari.
Il faut toujours avoir une main gauche de pendu desséchée chez soi. Jean-Claude Bologne est un poète, romancier, journaliste, enseignant, conférencier belge, qui a publié une trentaine d'ouvrages, dont une histoire du mariage, en édition poche, chez Hachette. Savez-vous ce qu'est une doxologie? Nous le saurons avant la fin de l'émission. Nous saurons aussi pourquoi le coton-tige fait tousser. Et comment dorment les girafes? Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Je m'appelle Oscar. J'aurai 9 ans en janvier. Ma question est la suivante. Pourquoi le bois qui n'est pas conducteur d'électricité se fait-il traverser par la foudre? Merci d'éclairer ma lanterne. Au revoir.
Merci pour la formulation de ta question. Raymond Piccoli va te répondre, Oscar. Raymond Piccoli est astrophysicien, directeur de laboratoire de recherche sur la foudre. Pourquoi le bois qui n'est pas conducteur d'électricité se fait-il traverser par la foudre?
Alors en fait, Oscar, il faut savoir que dans la nature, quand on parle de conducteur et de non-conducteur, c'est pas tout à fait vrai. Dans un arbre, il y a des liquides. Donc par définition, les liquides sont conducteurs. Alors, on a plusieurs cas de figure. En règle générale, la foudre, lorsqu'elle va frapper un arbre, c'est pas parce que l'arbre va être frappé avec une décharge très puissante que l'arbre va forcément mourir d'ailleurs. On a déjà vu des arbres, par exemple, qui étaient abondamment mouillés par la pluie en cours. La foudre les a frappés. On se trouvait, par exemple, à quelques centaines, voire quelques dizaines de mètres. L'arbre disparaît littéralement dans une énorme boule de feu. Ça fait un très imposant nuage de vapeur d'eau, puisque toute l'eau s'est évaporée. Et puis on s'aperçoit que l'arbre a des dégâts très mineurs. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une légende. C'est quelque chose de très commun dans la Vox Populi qui dit que certaines instances d'arbres ne seraient pas touchées. Comme le hêtre, par exemple, on dit le hêtre n'est pas touché par la foudre. Pourquoi? Parce qu'on en voit rarement qu'ils sont endommagés. Ben, c'est simple à comprendre, le tronc du hêtre est relativement lisse par rapport à d'autres. Donc l'eau s'écoule très fortement et fait une espèce de gaine conductrice autour, un petit peu, je ne vais pas dire un paratonnerre, mais on pourrait presque faire l'analogie, qui permet à l'électricité, à la décharge, d'aller jusqu'au sol. Par contre, un hêtre qui va être touché dans un cas d'orage sec où il n'y a pas de précipitation, le hêtre, il explose. On a trouvé des hêtres explosés avec des morceaux qui ont volé à 150-200 mètres.
C'est hyper intéressant. Donc ça vient de l'organisation propre de l'arbre, en fait.
Absolument. De sa résistance, de ses fluides également. On a parfois des arbres qui sont en partie épluchés, comme s'ils avaient été épluchés autour de leur axe, comme si une vis, une fraiseuse était passée, parce que ça a suivi, là aussi, sous l'effet des champs électromagnétiques produits par la décharge à l'instant où ça touche l'arbre, ça a réorganisé les fluides à l'intérieur et la décharge peut faire prendre à l'arbre des formes extrêmement particulières par la suite, voire le détruire carrément en l'explosant si ça pénètre au cœur du tronc.
Ça, c'est un truc à faire croire à la magie, quand on a dû voir. Non, mais c'est vrai. Ouais. Avant de savoir ce que vous savez, vous, maintenant, Raymond Piccoli, on a dû dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Ah oui, la foudre est à l'origine aussi de beaucoup de croyances et de beaucoup de légendes.
L'astrophysicien Raymond Piccoli est directeur du laboratoire de recherche sur la foudre. Vous pouvez aller faire un tour sur Internet à labofoudre.com. Vous pouvez également réécouter cette réponse sur franceinter.fr.
C'est ok, tu es hit. Après quoi, tu es KO, tu es out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la mode et le cashbox. Moitié bouillon, ensuite moitié gin. J'ai mini, carbure pas au mazout. c'est extrêmement pop. Si t'es à jeun, tu tombes en syncope. La nitroglycérine, c'est opus palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine, il y a foule pour les petits gars de Liverpool. Barbarelle, la garde tes bottines. Et viens me dire une fois pour toutes que tu m'aimes, ou sinon je te renvoie à ta science-fiction.
Vous n'étiez pas nés, mes chéris, c'était Serge Gainsbourg en 1966.
Les petits bateaux sur France Inter.
Avez-vous des animaux chez vous, chiens ou chats? Ont-ils le droit de dormir sur votre lit? Le droit est une chose et la réalité en est souvent une autre dans ce domaine.
Je m'appelle Léo et j'ai 6 ans et je voudrais savoir comment les girafes dorment. Merci.
Bonsoir Léo et merci pour cette question. Je n'ai jamais vu de ma vie de girafe se coucher. Peut-être que vous, oui, Brice Lefou, d'abord parce que vous êtes vétérinaire et ensuite parce que vous êtes le directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Et d'ailleurs, doit-elle se coucher pour dormir?
Eh bien oui, elle se couche. Alors Léo a tout à fait raison de poser la question parce qu'on ne les voit pas souvent coucher, les adultes girafes. Alors si je parle directement à Léo. Léo, donc lorsque tu dors, tu vas dormir très longtemps, presque 12 heures d'affilée. Et dans ces 12 heures d'affilée, tu vas avoir les yeux fermés, tu vas bouger dans ton sommeil, mais tu vas avoir les yeux fermés, et tu vas passer par différentes phases de sommeil, on appelle un sommeil léger, un sommeil profond. La girafe, elle peut pas faire ça, parce que c'est trop dangereux. Donc elle va dormir majoritairement la nuit, bien sûr, mais par phase de 15 minutes à 1h30 maximum. Et dans une journée entière, donc une journée plus une nuit, avant le lendemain matin, elle n'aura dormi en tout et pour tout qu'entre 4 et 6 heures, pas plus, par petite phase. Elle peut dormir soit debout, alors pour ça elle va écarter les pattes à l'avant, écarter les pattes à l'arrière,
pour être stable.
Le cou se baisse un petit peu, les yeux vont rester ouverts, et là elle est dans un sommeil léger. Elle va ensuite pouvoir se coucher aussi. Ça, c'est vraiment des fréquences assez courtes, mais elle en a besoin. Donc, elle se couche. Et si Léo a l'occasion de voir des vaches dans un champ, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il faut imaginer la vache avec un grand cou. Mais c'est la même façon de se coucher avec les pattes arrière sur le côté et les pattes avant repliées sur soi.
Et lorsqu'elle se relève, c'est ça que je trouve terrible.
Oui, elle se relève. Alors, elle a absolument besoin du balancier de son cou pour se relever. C'est
ah oui, elle lance la tête.
Elle lance la tête pour se relever parce qu'elle a besoin de se balancer pour justement dégager ses antérieurs, qui sont très très grands. Ses pattes avant, elles sont très très grandes. Et donc là, elle peut dormir donc soit sans poser sa tête sur son dos, elle est dans ce cas-là encore dans un sommeil léger, et quand elle a ses 15 minutes, hein, pour un adulte, ses 15 minutes de sommeil très profond, là, elle va mettre sa tête sur son dos.
D'accord,
et elle va fermer les yeux. Et là, elle dort profondément. Mais ça dure très peu de temps.
Et là, je pense qu'elle est justement vulnérable pour un prédateur.
Elle est vulnérable pour un prédateur et c'est pour ça qu'on les voit alterner. Dans le troupeau, pendant qu'il y en a qui font ça, d'autres sont debout et vigilent. Ils alternent. Donc ça a été étudié notamment dans les parcs zoologiques pour bien percevoir ce cycle, parce que c'est pas évident. Et chez les jeunes girafons, donc vous avez l'occasion de pouvoir en voir, notamment à Paris, il y en a. Chez les jeunes girafons, là on les voit déjà coucher beaucoup plus que les adultes, parce qu'ils dorment beaucoup plus.
Ah oui.
Et c'est comme chez l'être humain, les enfants dorment plus longtemps, ils sont en phase de croissance, donc ils ont besoin de plus de sommeil. Les jeunes girafons aussi.
C'est qui le prédateur de la girafe?
Alors le prédateur de la girafe principale, c'est le lion, la lionne en fait. Et après, les autres prédateurs peuvent aussi s'organiser, notamment les hyènes ou encore les léopards. Mais les léopards, ils chassent à l'affût. Ils vont vraiment essayer d'attraper que les petits et souvent les parents sont très vigilants.
principal prédateur qui peut s'attaquer même à un adulte, c'est la lionne. Elle va s'accrocher en fait sur le torse de la girafe jusqu'à ce que la girafe tombe.
Mais pourquoi vous dites la lionne, le lion il mange pas ?
Le lion ne chasse pas.
Ah oui, c'est un petit peu comme chez nous en fait. C'est madame qui fait les courses. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des savants pour leur répondre. Et des questions sur les girafes, il y en a beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi quand on se nettoie les oreilles avec du coton-tige, ça nous donne envie de tousser ou ça nous gratte la gorge. Merci, au revoir.
Bonsoir Emma, docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel. Emma parle d'envie de tousser et de gorge qui gratouille quand on se nettoie les oreilles avec un coton-tige.
Oui, tout à fait, c'est ça arrive à pas mal de gens.
Oui.
Ça arrive à pas mal de gens parce que tout ce qui irrite un nerf qui s'appelle le pneumogastrique, ça peut provoquer de la toux. Et ce nerf, il va innerver un tas d'organes qui ont à voir avec la respiration et tout ça, le diaphragme, la plèvre. La gorge aussi, et ça innerve aussi une petite partie, chez certaines personnes, pas toutes, une petite partie du conduit auditif externe. Donc quand on le gratouille, eh ben, ça donne un réflexe de toux. Et je le sais parce que ça m'arrive à moi aussi. La deuxième chose que je voulais dire à Emma, c'est que les cotons-tiges, c'est pas génial pour se nettoyer les oreilles, parce que ça pousse le cérumen qui a vraiment une fonction de nettoyer les oreilles, d'enrober les petites saletés qu'il peut y avoir, ça le pousse dans le fond, et là ça devient très difficile à aller chercher, et en plus ça empêche le tympan, qui se renouvelle tout le temps, d'évacuer grâce au cérumen ses propres cellules.
C'est pas grave d'avoir de l'eau dans les oreilles, Marie-Claude Monfray-Fauvadel ?
Bah, c'est grave si ça reste, mais donc il faut se pencher ou bien avec le petit couvercle qu'on a qui s'appelle le tragus, essayer de faire évacuer l'eau.
Parfois on voit des enfants, plus souvent que des adultes, qui rentrent dans l'eau avec des bouchons dans les oreilles, c'est pour ça que je vous pose cette question.
Oui, parce que ce sont des enfants à qui on a pu mettre des petits drains au travers du tympan pour leur éviter les otites à répétition. Et donc ces drains font comme le deuxième trou dans la boîte de conserve, ils permettent d'aérer l'arrière du tympan, mais donc à ce moment-là, ça fait une ouverture et l'eau pourrait s'infiltrer et infecter l'oreille. Donc à ce moment-là, on leur met des protections sur les oreilles quand ils vont dans l'eau.
Donc drain ou bien tympan percé.
Voilà, ah bah encore plus, bien sûr.
De toute façon, les cotons-tiges en plastique seront interdits à partir de l'année prochaine, en 2020. Le docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel est ORL, phoniatre, psychologue, phonéticienne et travaille beaucoup sur le bégaiement. Vous trouverez son blog sur le bégaiement sur le site des Petits Bateaux.
Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Back to my vehicle. They just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's not original. Send a call, alright, let's go now.
C'était Casio Jungle, un groupe qui nous vient de Londres. Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter. Vous avez déjà entendu Delphine Horvilleur au Petit Bateau. Elle est rabbin et elle a écrit, entre autres, des mille et une façons d'être juif ou musulman avec Rachid Benzine et c'est édité au Seuil.
Bonjour, je m'appelle Pélélian. J'ai 7 ans, je voudrais savoir ce que ça veut dire Alléluia. Merci de me répondre. Au revoir.
Eh ben, voilà une question bien posée. Que veut dire Alléluia, Delphine Horvilleur?
Alléluia, ça vient de l'hébreu. Littéralement, ça veut dire glorifier Dieu, glorifier l'Éternel. Yah, c'est un des noms de Dieu. Et Allélu, ça veut dire glorifier en hébreu. C'est ce qu'on appelle dans un langage un peu savant une doxologie, c'est-à-dire une façon dans la prière de grandir Dieu, de chanter ses louanges. Et c'est un terme qui a été repris dans de très nombreuses traditions. On le dit par exemple dans le monde chrétien, on le dit dans les prières juives. Parfois même on le chante. Il y a des très célèbres chansons, même de variétés, qui reprennent ce mot de Alléluia.
En fait, Leonard Cohen, parce que j'imagine que vous pensez c'est à lui ou à Jeff Buckley qui a repris cette chanson et d'autres d'ailleurs. Finalement, tout le monde dit Alléluia sans tellement savoir que c'est de l'hébreu.
Oui, voilà, les gens même s'imaginent parfois que c'est un peu comme un Eureka. Ouais. En grec, on dit Alléluia pour se féliciter de quelque chose. Mais en fait, quand on prononce ce mot, on est dans l'éblouissement de la manifestation du divin où on rend gloire à Dieu dans le monde.
C'est effectivement un nom fréquent parce que quand moi je l'écris en texto, mon téléphone l'écrit tout seul. Ce qui m'arrange parce que je sais jamais où est le H. Donc, finalement, si le téléphone le connaît, c'est que c'est un nom courant.
Oui, ça fait partie de ces mots en hébreu qu'on connaît tous, mais souvent on ne sait pas que c'est de l'hébreu. Par exemple, il y a d'autres mots comme celui-là. Il y a le mot chérubin qui veut dire un ange, mais ça c'est de l'hébreu. C'est un des noms des anges dans la Bible. Voilà, ça fait partie de ces mots qui ont intégré le langage populaire que tout le monde connaît. Les gens parlent hébreu sans le savoir, comme dans Molière, on parlait la prose sans le savoir. C'est le nom d'une certaine catégorie d'anges qu'on appelle en hébreu les kérouvines, qui ont été traduits par chérubins. Il y en a d'autres, par exemple, dans la Bible, on parle des séraphims, qui sont devenus en français les séraphins.
Eliane, qui n'est pas un ange, sait pourtant qu'un séraphin est un ange avec trois paires d'ailes. Information Eliane Girard, à vérifier. Vous pouvez réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr. Merci aux anges Marjorie de Voucoux, Eliane Girard, si quand même, Elisabeth Collet, Noël Bréham. Merci aussi à notre programmateur musical Jean-Baptiste Audibert. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse. Et pour l'instant, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulle, mon petit loup.